Bonjour, bienvenue chez les Papous de France Culture. En piste, Françoise Tressart et la belle équipe pour un numéro spécial Papou Poétique avec l'indispensable publipapoucité de Patrice Caumont. La textée pour Jean-Bernard Pouet et Jacques Vallée, c'est Patrice Delbourg qui l'a imaginé, sa feuille de route.
Oubliez rimes croisées, oubliez métriques, vers réguliers, vous êtes dans le premier tiers d'un poème fluide de familiarité humide.
Une vie de livre de chevet, les humeurs du poète Delbourg sur la poésie. Ensuite, une chasse aux inédits d'Arthur Rimbaud par Clémentine Mélois.
Le premier de ces documents, c'est un manuscrit.
Oui, montrez-le bien au micro.
Voilà,
oui,
au micro, je vous montre.
Il a écrit la bohème.
Sur papier défraîchi, de la main même de Rimbaud.
Des jolis pleins, des déliés aussi.
Alors, il n'est pas daté.
Souvent mais pour s'amuser, les hommes d'équipage, oui, je reconnais la bohème très bien là.
Enfin, qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? Premier épisode d'une nouvelle série de Jacques Jouet. Une émission des Papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an. Pour les commentaires, remarques, questions, direction la page Facebook des Papous. Rejoignez-nous, on peut échanger. Et c'est bon de pouvoir se dire des choses. Tous les ans, la France fête la poésie au printemps du 5 au 20 mars cette année. Le printemps des poètes. Nous le fêterons aujourd'hui, à notre façon, en jouant. Pour ouvrir ce numéro des Papous, une page de Publipapoucité consacrée au sport avec Monterland, par Patrice Caumont. Monterland a écrit des poèmes sur le sport, mais ça, peu de gens le savent. Un recueil, Les Olympiques, avec notamment Les Sauteurs de haies, par exemple. Ils abordent la haie à toute allure, ils la franchissent dans la foulée. Elle n'est pas sautée, mais annulée. Elle s'est trouvée sous l'enfourchure. Il n'y a pas de temps d'arrêt, on fait trois pas entre les haies, droite et la jambe pour attaquer. Le corps effleure le bois à peine. L'autre jambe se laisse emporter. Nonchalante, elle a effacé sous elle la hauteur vaine, douceur parfaite. Oh, volupté de voir comme elle est molle et traîne au haut de sa rapidité. Il passe, la ligne est passée. Au doigt l'azur du fil de laine, elle expire la vague humaine. Ils coulent sur leur lancée. Voilà des poèmes à relire, à savourer pour la candidature de Paris au JO 2024. Et maintenant, Monterland, fête du sport avec Henri. Une page de Publipapoucité mitonnée par Patrice Caumont, avec des petits rôles pour Odile Conseil et Philippe Manès, notre complice du Café de la Gare. Chanson et piano, Gabriel Godard.
Monterland, on l'appelle Henri. Il y en a même qu'il surnomme Riri, le mal aimé.
En Pléiade, enterré vivant, faut pas croire qu'il ait fait son temps. Pour la force d'âme, c'est toujours le boss Monterland.
Vous sentez tout raplapla ? Vous avez les jambes en guimauve, les bras en loukoum et les nougamou ?
Faites du sport avec Henri.
Henri transforme les librairies en salles de gym et les médiathèques en stades olympiques.
Renseignez-vous, il y a nécessairement un Henri Club de remise en forme près de chez vous ou tapez doublemaître@santiago.com.
Le coach Henri l'a dit, le style, c'est la caresse du sport.
Alors, plutôt que de sombrer dans les délices de Capoue tel Carthage, secouez-vous les cartilages, faites la tortue, soyez romain.
Vous verrez, Monterland, son message, c'est d'abord un massage.
Et même un remassage scolaire, plus kiné cruel que taille sensuelle, aux huiles plus essentielles qu'existentielles. C'est pas du Sartre.
C'est pas de la tarte non plus. C'est plutôt martial, ça secoue le viril. Monterland, c'est pitié pour les femmes, lettres.
Plus que de la culture, c'est du culturisme. Ça vous refait la muscu. Santiago, c'est pas rigolo, et Pacifae, c'est pas si facile.
À fond la forme qui a du fond, c'est du Rambo, écrit comme Salambo.
Alors, donnez du coffre à votre buffet avec le style Henri II, Monterland.
Il aimait les beaux garçons, les sportifs en caleçon, Monterland. Et aussi les corridas, le sang c'était son dada, Monterland.
Ses récits et ses romans, c'est plus froid et moins marrant que Maupassant. Son théâtre, il est bien beau, même s'il est moins rigolo que Marivaux. Reine morte ou Santiago, c'est pas le même piano que Modiano. Il sodomise pas les mouches et n'enfile pas les babouches de Mallarmé. Force d'âme et corps viril, c'est Plutarque et c'est Virgile, Monterland. Romain jusque dans la mort, comme nous le rappelle encore Mishima. C'est en marbre et nougat dur qu'il grave son écriture, Monterland. C'est pas toujours marrant, on dirait du Cioran, Monterland.
Chez vous, dès aujourd'hui, laissez tomber votre vélo d'appart et pratiquer la tauromachie en chambre.
Laissez les jeunes filles jouer à Candide Cruche et télécharger gratuitement l'appli Corrida Fitness sur vos tablettes. Vos abdos retrouveront les leurs.
Entraînez-vous au pyjama tador.
Faites des pointes de torero, jouez les picadors sur Polochon.
Avec les Véroniques de peignoir au pas cadencé, le port royal du toréador en pas chassé, la couette incarna multa secouée au pas de course et l'estocade au pas de charge, votre surcharge pondérale sera dans l'arène morte.
Plus besoin de biscottes pour retrouver vos biscottos. La gymnastique intellectuelle de Monterland fait transpirer et son ego vaut des haltères.
Votre bibliothèque devient gymnase. Chaque roman est un jogging, chaque essai un running, chaque carnet une purge et chaque pièce fait des longueurs de piscine.
Avec son sport royal, Henri, c'est vraiment l'athlète dévot à la vie aigrelette. C'est l'écate à fond du décathlon. C'est le maître de Santiago Sport. Bien le bonjour, monsieur Monterland. Vous avez du muscle, vous avez du muscle. Bien le bonjour, monsieur Monterland. Vous avez du muscle et du talent.
Bravo, Patrice. Une date à noter sur vos agendas, dimanche 20 mars. Nous serons en public et en direct au Salon du Livre de la Porte de Versailles à Paris de 12h50 à 14h, donc dans le studio Open de France Culture sans piano, mais avec un bandoneon et Pablo Gignoli pour en jouer. Et bien sûr, la belle équipe des Papous nous viendront en nombre. Une émission qui sera suivie d'une séance de dédicace des livres collectifs des Papous dans la tête. Retrouvez toutes les infos sur notre page Facebook et à la page des Papous du jour. Et c'est le moment de la texter avec Patrice Delbourg, Jean-Bernard Puy et Jacques Vallée. Patrice Delbourg a choisi une certaine œuvre ou un petit bout de cette œuvre et il va la dicter à deux écrivains papous et joueurs, deux adjectifs qui vont très bien ensemble. Mais la dicter avec d'autres mots que ceux de son auteur, en proposant par exemple des métaphores, en suggérant des idées qui devraient pousser Jean-Bernard Puy et Jacques Vallée vers certains mots, en cultivant les figures de rhétorique. Pourquoi pas ? Il a tous les droits, Patrice Delbourg, mais il devra se justifier en fin d'exercice. Et c'est ainsi que s'écriront deux histoires sous sa textée. C'est un moment d'émotion pour Patrice Delbourg, puisque c'est la première fois qu'il joue à ce jeu et qu'il en rédige la feuille de route.
Alors, ambiance générale,
oui.
Oubliez rimes croisées, oubliez métriques, vers réguliers. Vous êtes dans le premier tiers d'un poème fluide de familiarité humide.
Oui. Vous n'êtes pas concerné, pleut. Hervé. Alors.
Non, mais c'est la familiarité humide qui me trouble. Je trouve ça
il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon lit.
Sur la ville.
Trouver un titre pas trop ronflant, en dépit de l'appel du poète à jouer la bête de somme.
Ça, c'est la première injonction.
Il y a un jeu de mots, hein. Ronfler, bête de somme, on sent qu'on est dans du Delbourg quand même.
Ah oui.
Deuxième injonction. Vous observerez la récurrence précoce d'un effroi amniotique. Quatre vers.
Explication de texte. Amniotique.
Qu'est-ce que tu entends?
Amniotique.
Quand on est dans le corps de sa maman, le liquide amniotique. Comment ça, Jacques Vallée, vous qui avez écrit L'endormeuse sur les femmes enceintes?
Si, j'ai même des souvenirs de ça.
Ah bon?
Vous l'avez même écrit, je crois bien.
Mais vous aviez oublié le mot.
Oui, ben non, mais je vous laisse à la précision qu'il précise.
D'accord.
Troisième précepte. Nouvelle récidive de la douleur d'être au monde, du dur désir de durer chez le chaland. Tout au présent, bon sang, et sans ponctuation, s'il vous plaît. Quatre vers.
Ça vous va, Jean-Bernard?
Le chaland, c'est l'homme qui passe ou c'est la marina fluviale?
Le chaland, ça peut être aussi bien la chanson de la Talente, si vous le voulez.
Oui.
Vous n'avez pas besoin de leur mâcher le travail non plus, hein?
Non, mais je l'égare, au contraire.
Ouais.
Quatrième consigne. Soudain, comme l'image d'un totem fiché dans la poussière d'un western. Un verre.
Il manque un verbe, non? Soudain, qu'est-ce qui se passe?
Oui,
c'est
mais
ça.
S'il ne met pas de verbe, ça veut dire qu'il...
On n'a pas besoin de verbe.
Oui,
pas
que le verre n'en aura peut-être pas.
Ah.
Soudain, comme...
Comme l'image d'un totem fiché dans la poussière d'un western. Un verre.
Oui.
Soudain, l'été dernier, par exemple.
Ah, très bien.
L'été dernier. Avant-dernier commandement, vous soulignerez un effet désinvolte de réflexion face à une enseigne française du commerce de proximité disparue en 1995. Deux vers.
Tu peux répéter.
Oui, ça vaut le coup.
Vous soulignerez un effet désinvolte de réflexion face à une enseigne française du commerce de proximité disparue en 1995.
Bon, interdiction d'ouvrir vos smartphones pour Deux chercher. Vers.
Cette enseigne est connue.
Bien entendu.
Bien sûr.
Sixième et dernière prescription, vous insisterez sur un possible salut existentiel vers un régal présidentiel. Six vers. Six vers.
Ah ouais, alors en tout, ça fait combien de vers?
L'ensemble fait 11-12 vers.
11-12, il n'a pas pris soin de recompter.
Ça dépend comment on le lit.
Qui ne rime pas, donc.
Ah oui, quelle idée de rimer.
J'arrive à quoi, oui.
Amusez-vous bien?
Oui, ben merci.
Bohemia de París, alegre loca y gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era el amor. La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad.
Et vous êtes prêts, Jacques Vallée, Jean-Bernard Puy?
Oui, on est prêts.
Fini, les stylos sont posés. Vous êtes content de vous? Parce que vous aviez l'air légèrement inquiet au premier tour à la lecture de la feuille de route de Patrice Delbourg.
Oui, mais avec Patrice, on est toujours inquiet au début. Mais après, ça va mieux.
D'accord. On reprend les injonctions les unes après les autres. Donc, il y avait un petit chapeau général pour donner l'ambiance.
Il y avait une petite ambiance, un climat général. Oubliez rimes croisées, métriques et vers réguliers. Vous êtes dans le premier tiers d'un poème fluide, de familiarité humide.
Voilà. Ça, je ne sais pas si vous l'avez compris, cette
référence. Ça sent la rue des Bleuets, quand même.
Ah bon?
Vous ne savez pas ce qu'est la rue des Bleuets?
Non, je ne sais pas du tout.
La plus célèbre clinique d'accouchement de Paris.
Ah oui, les Bleuets.
Les Bleuets.
Ah,
oui.
Ah mais je ne connais pas la rue, mais je connais les Bleuets. Oui. Le nom de la clinique est plus célèbre que la rue. Alors, ça a commencé par une demande de titre.
Oui, une demande de titre. Trouver un titre pas trop ronflant, en dépit de l'appel du poète à jouer la bête de somme.
Jacques Vallée.
Aimez-moi.
Il y a toujours une demande chez Jacques Vallée qui est formidable. On lui demande un titre, il dit aimez-moi. Et on a envie de l'aimer, non?
Hein? On a envie de le dorloter, oui.
Oui, de le câliner, il y a une proximité.
Pas du tout.
Pas du tout, Jean-Bernard Pouy.
L'âne emporte toujours trop.
Emporte en un seul mot?
Non, emporte.
Ah, de porter.
Et pas la porte pour entrer.
D'accord,
hein,
porter, d'accord.
L'âne emporte toujours trop.
Et lui, il est plus proche?
Non.
Non, parce
il est,
que...
il est même peut-être encore plus loin.
C'est ça, ce sont deux démarches très, très éloignées l'une de l'autre.
Oui. Il faut dire aussi que dans les injonctions, il n'y avait pas trop de précision, il n'y a pas de sujet.
Ah bah, c'est pas scolaire la textée, Jacques,
oui. Non, mais ça pouvait aller dans des sens complètement opposés, différents.
Oui, mais enfin, on va en venir à la myotique quand même, vous allez voir.
Voilà. C'est le début
du
poème, puisqu'il faut bien appeler ça un poème. Vous observerez la récurrence précoce d'un effroi amiotique.
Alors, Jacques Vallée.
Quatre vers.
Je viens d'un pays pluvieux, de peur et d'effroi, tourné vers le cri, la découverte du froid.
Ah oui. Pourquoi l'amiotique, le rapport avec l'amiotique, Jacques?
Ben c'est le bébé qui va vers le cri et la découverte du froid.
Ah oui, alors qu'il était bien au chaud.
Oui, oui je viens d'un pays pluvieux.
Oui, oui.
C'est l'humidité qu'il a signalée, de peur et d'effroi, tournée vers le cri, la découverte du froid, c'est la naissance.
Ah oui, 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 non mais ça se tient, hein. Hervé, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes observateur dans cette histoire.
Pour l'instant, j'observe, je trouve.
Oui,
les arguments sont ce qu'ils sont, n'est-ce pas? Donc,
Ah non, c'est pas mal argumenté, non, c'est quand pas même. Mal. À vous, alors, cet âne qui emporte trop.
Comme Jacques, très impressionné par le froid.
Oui.
Pourquoi sortir et trembler le froid? Pourquoi ouvrir les yeux et pâlir? Pourquoi souffrir le ventre rassasié? Pourquoi pleurer quand vient le soir?
Oui, c'est bien.
Ah, là, Jean-Bernard Pouy amorce un net rapprochement.
Ah bon? Mais où est le liquide amniotique là-dedans, moi?
Nulle part, mais néanmoins.
Non, nulle part, hein, vous êtes d'accord.
Bah là, il est dedans.
Et oui, c'est pourquoi sortir.
Ah oui, pourquoi sortir
Pourquoi souffrir? Pourquoi pleurer
Mais l'âne, c'est la maman, alors?
Non, c'est lui.
Ah, c'est lui.
Oui.
D'accord.
C'est pas la maman qui sort. Hein.
Non, mais parce que le titre est axé sur l'âne.
L'âne, c'est pas la maman non plus,
c'est
lui.
C'est pas la maman non plus. Vous me préviendrez quand elle arrivera, la maman. Après, Patrice Delbourg.
Précepte suivant. Nouvelle récidive de la douleur d'être au monde, du dur désir de durer chez le chaland, tout au présent, bon sang, et sans ponctuation, s'il vous plaît.
Jacques.
Quatre vers. Dans cette solitude d'être, j'attends que tu m'emportes, au toit comme un fleuve qui permet de traverser les jours.
C'est beau, hein? Non, mais il y a toujours la belle poésie de Jacques Vallée.
Il y a un
flot
hugolien qui déjà nous transporte.
Oui, mais on se rapproche.
On s'éloigne.
On s'éloigne. Jean-Bernard.
Je refuse l'idée d'un lait trop tiède et la certitude d'avoir mal aux dents. Épargnez-moi vos guiliguilis grotesques et ne vous moquez pas de mes fesses souillées.
Alors,
c'est plus technique.
Ah oui, mais dans la manière est beaucoup plus proche, là.
Ah bon?
Oui.
Mais dans le choix des mots
dans le choix des
ou
mots,
dans la musique?
Dans la musique et puis dans l'ambiance, dans l'atmosphère. L'atmosphère générale est quand même beaucoup plus proche.
D'accord. Ouais. D'accord. Alors, on passe à la consigne suivante.
Alors, la consigne suivante, un vers, consigne brève. Soudain, comme l'image d'un totem fiché dans la poussière d'un western.
Voilà, la fameuse phrase sans verbe.
Oui, qui... Oh, sans verbe.
Enfin, sans verbe, disait Jean-Bernard Pouy en première partie.
Quand même, on peut se passer des verbes maintenant.
Mais c'est vrai, on peut se passer de beaucoup de choses. Hein. Jacques Vallée.
Comme une danse sacrée autour d'un bûcher.
Ah, ça, c'est bien.
Oui. Alors là, il y a un rapprochement fulgurant.
Ah oui.
Sur ce point précis.
Et inattendu.
Et très inattendu, oui, oui. Il revient du diable Vauvert, comme disait Zitrone jadis.
Jean-Bernard Pouy.
Toi, ma mère, surgissant d'un nuage opaque.
Alors voilà, lui s'éloigne au contraire.
Ah ben voilà, c'est...
Là, il y a un croisement.
Oui, c'est drôle ça. Hein.
Le début du texte, Jean-Bernard était très proche, et puis Jacques assez éloigné, et là, ils se croisent.
Et on va voir ce qui se passe ensuite.
Attendons la suite. Avant-dernier commandement, le cinquième donc, vous soulignerez un effet désinvolte de réflexion face à une enseigne française du commerce de proximité disparue en 1995.
Ah, alors là, vous aviez le choix, mais peut-être pas tant que ça, Jacques Vallée.
mais le temps baisse son rideau, bat encore une fermeture.
Ah, mais l'enseigne alors.
Ah ben, je suis devant une enseigne qui baisse son rideau et une réflexion désinvolte, je dis bah encore une fermeture.
Ah oui, vous êtes assez indifférent,
oui.
Quoi.
Ben, c'est désinvolte.
Oui, c'est vrai. Oui, mais on attendait la mention de l'enseigne.
Mais je n'ai pas
l'enseigne.
Voulu coopérer.
Ah oui, ouais, réfractaire, vous l'avez nommé l'enseigne, Jean-Bernard.
Oui.
Alors c'est quoi?
Et ce bébé cadome qui rigole à jamais, bêtement ébahi par des bulles de savon.
C'est cadome?
Cadome, oui.
Ah oui, le bébé cadome.
Mais c'était plus une pub qu'une enseigne, non?
Oui, c'était une enseigne aussi.
Ah oui.
Enfin, on m'a enseigné que c'en était une.
Alors là, il se rapproche à nouveau par le fait d'être prosaïque et de citer les choses, de nommer.
Oui.
Là, on se rapproche du poème, bien entendu.
Oui, alors que Jacques Vallée est plus abstrait,
oui,
finalement.
Oui, là, il parle de baisser, de venture, comme on baisse culotte, ça reste assez général, quand même.
Oui, oui, mais il est pudique, Jacques Vallée, donc il ne nomme pas les choses.
Non, il ne nomme pas. En privé, peut-être, mais jamais au micro.
On continue.
Dernière prescription, vous insisterez sur un possible salut existentiel vers un régal présidentiel.
Alors là, c'est un peu difficile, non? Non, Jacques Vallée?
Peut-être te retrouverai-je encore avec ta nudité magique dans les draps du désir pour un dernier repas d'Ortola.
C'est Mitterrand, ça.
Oui,
le président.
Alors, il manque une marche. Jacques rate une marche.
Ah bon?
C'est juste celui d'avant.
Ah donc c'est Chirac.
Oui. Celui évoqué par Jacques et celui qui venait avant celui évoqué dans le poème choisi.
D'accord.
Je parle du président.
Du fait de savoir qu'il y a un poème dans lequel le nom de Chirac apparaît.
Moi aussi, on va voir. Jean-Bernard Pouille.
Alors c'est toujours l'enfant qui parle.
Oui.
Que penser enfin quand tout sera normé, le certif, le bac et puis l'ENA? Et toutes ces réunions avec les syndicats, et tous ces mensonges dans les cabinets, et la mini-lard un soir d'élection, les paumes humides, le champagne et la Marseillaise.
Oui.
Oui, c'est ça, Marseillaise.
Oui, il y a une énumération qui est bien dans l'esprit de la poésie. Et puis, il y a le syndicat qui est là, qui frappe à la porte, qui est bien dans l'esprit aussi du poème.
Ne nous dites rien encore, on va écouter leurs poèmes comme ça, sans les interrompre. Pour le plaisir, Jacques Vallée.
Aimez-moi, je viens d'un pays pluvieux, de peur et d'effroi, tourné vers le cri, la découverte du froid. Dans cette solitude d'être, j'attends que tu m'emportes au toit comme un fleuve qui permet de traverser les jours. Comme une danse sacrée autour d'un bûcher, mais le temps baisse son rideau, bah, encore une fermeture. Peut-être te retrouverai-je encore avec ta nudité magique dans les draps du désir pour un dernier repas d'Ortola.
C'est assez joli, hein?
Oui.
Est-ce que c'est plus joli, moins joli que l'original? Enfin, je parle du ton un petit peu charmant,
comme ça. C'est plus grave, c'est plus hiératique.
Ouais.
Le poème d'origine est un peu plus badin, un peu plus frivole.
Ouais. On écoute Jean-Bernard Pouy.
L'âne emporte toujours trop. Pourquoi sortir et trembler de froid? Pourquoi ouvrir les yeux et pâlir? Pourquoi souffrir, le ventre rassasié? Pourquoi pleurer quand vient le soir? Je refuse l'idée d'un lait trop tiède et la certitude d'avoir mal aux dents. Épargnez-moi vos guilis-guilis grotesques et ne vous moquez pas de mes fesses souillées. Toi, ma mère, surgissant d'un nuage opaque, et ce bébé cadome qui rigole à jamais, bêtement ébahi par des bulles de savon. Que penser enfin quand tout sera normé? Le certif, le bac et puis l'ENA, et toutes ces réunions avec les syndicats, et tous ces mensonges dans les cabinets, et la mine hilare un soir d'élection, les paumes humides, le champagne et la Marseillaise.
Il y a un certain désespoir quand même, je trouve, dans ce texte. Hein.
Bah, oui.
Il faut bien l'avouer.
Ça sent l'abstention quand même.
Un peu, un peu.
Oui, ça sent un peu l'anard.
Sans vote blanc, disons.
C'est le vieil anard humide dans la sciure du comptoir, il est proche. Avec les cabinets, avec les élections, avec les paumes humides, et puis avec le bébé cadome.
Alors c'est quoi?
Alors, c'est un poème que vous connaissez tous, et toutes, qui est La Grâce matinée de Jacques Prévert.
Oui, je pensais.
Dont j'ai choisi le premier tiers. Hein.
Oui.
Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre.
Et voilà la fameuse tête de veau, plat préféré de Jacques Chirac.
Et voilà la friandise de Jaco.
Oui. Comment est-ce que vous justifiez quand même le liquide amniotique, là ?
L'œuf.
Ah ben voilà.
L'œuf.
Et oui.
Dans l'œuf, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie du bébé.
Le blanc. Dans l'œuf dur, un peu moins.
Vous voyez, vous êtes chicanier.
Harukana mukashini sarishin tono huta Kyomo machini nagaru Omokage shirazeni utawareru utayo Kyomo machi ni nagaru.
Charles Trenet, l'âme des poètes, version japonaise.
Il y a des papous dans mon quartier.
Et sur France Culture.
Et des papous tout poétiques aujourd'hui. Une vie d'objet est racontée au jeu par Jacques Jouet. Jacques Jouet, un des écrivains poètes de la bande des papous, lire par exemple ses poèmes de métro. Donc un écrivain poète de la bande, avec naturellement Patrice Delbourg, avec Jacques Vallée, avec Gérard Mordiga. Bien sûr, à chacun sa poésie, à chacun son style. Jacques Jouet donc, qui se prend pour une chose, et c'est pas la première fois. Et Sophie Divry lui répondra. Sophie Divry, nouvelle venue chez les papous, écrivain, déjà 4 romans à son actif, dont la condition pavillonnaire est « Quand le diable sortit de la salle de bain ». Sorti, c'est le cas de le dire, cette saison, aux éditions Noir et Blanc, à lire absolument. D'abord l'objet, Jacques Jouet. Vous êtes qui, Jacques ?
Je suis le livre de chevet.
C'est vous ? Celui de nous tous, le livre éternel ?
Oui, le livre de chevet, le vôtre, François, celui qui parle à l'oreille, celui qui dit des choses à l'oreille qui se trouve sur l'oreiller.
Oui, ça c'est très subtil.
Je suis le livre de chevet.
Oui.
C'est un livre de poésie, car je ne trouve pas mauvais que dure cette fantaisie, qu'on ait tout près de l'oreiller, toujours un rendez-vous livresque qui permet de s'encanailler d'une belle façon dantesque.
Mais c'est en vers.
Ça rime, hein.
Oh là là, mais que c'est beau.
Oui, oui,
oui. Oui.
Souvent dans les livres de
poésie.
Ça veut
dire surprise. Oui, oui. Je suis le livre de chevet. La poésie est à la mode. Je suis un livre assez épais, qui couvre toutes les périodes. Lorsque mon maître dans ses draps pénètre nu comme un lombric, plutôt qu'en affreux pyjama, je quitte mon état de brique, inerte, pour lui envoyer un petit coup dans les narines de mon parfum de frais papier, d'encre et de reliure câline. J'ai beaucoup de vers à lui lire, à mon lombric affectionné. Des vers heureux ou des vers pires, objectifs ou illuminés. Mieux qu'effeuiller la marguerite, feuilleter un livre le soir, avant d'entrer dans la guérite de la nuit où dorment les loirs, est une activité plus saine que s'agiter de ci de là. Écoutez donc un peu Verlaine en pesant sur le matelas. Le livre de chevet lui-même, que je suis, lit à haute voix. C'est lui qui forme les phonèmes, chante, rythme, gueule, déploie, tour à tour les mots de la langue, arrangés pour le seul plaisir, de les déloger de leur gangue, d'en faire des lieux de désir. Je dis le poème en silence, les voisins ne se plaignent pas. Et si parfois la virulence, par nécessité, prend le pas, c'est de façon tout intérieure. Baudelaire a le vin mauvais, capable de l'humaine aigreur. Hugo furieux à Guernesey. Comme une permanente crise, la poésie frappe partout. Elle rit ou se formalise, puisqu'elle est capable de tout. Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, par froidure ou par canicule, je suis le livre de chevet. à l'aise dans le crépuscule. Et comme un chat dans la nuit noire, subliminal aussi j'agis, quand le lecteur dans le coltard est tombé sans plus d'énergie. Ce soir, tu as trop chaud, mon maître. Pas besoin de ventilateur. Tu peux très bien envoyer paître la clim, je suis là, n'aie pas peur. Une page, quand tu la tournes, Mallarmé le disait très bien, est un éventail de livourne, rafraîchissement parnassien. Tu fais d'une pierre deux coups. Tu as le poème et le vent. Bien-être physique partout et la lumière en même temps.
Qu'est-ce que c'est joli, c'est magnifique.
Ces octosyllabes avec des rimes croisées, c'est superbe.
Très 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 beau. Il est un peu intello pour un artiste.
On a envie de dormir
maintenant. Mais oh non, non, contraire.
Le livre de chevet peut donner envie de dormir, c'est pas
grave. Ça, c'est sa vocation. Non.
Il ne se vexe pas pour autant. Non, bah,
c'est ça. Oui, mais on le lit des heures avant de tomber assoupi quand même.
Ça dépend du livre.
Ah ben ça dépend du livre. Vous vivez à côté du livre de chevet, Sophie Divray.
Je vis à côté du livre de chevet. Oui. Je suis l'épouse de l'homme qui lit le livre de chevet. Enfin non, je suis son avocat. Donc je suis une lettre de cet avocat.
L'avocat de l'épouse.
L'avocat de l'épouse.
Ah oui, ouh, ça s'annonce pas bien.
Cher monsieur, veuillez trouver par la présente le jugement de divorce demandé par madame votre épouse, madame Cunégondine Ribel, née Arsouin. Vous verrez que le divorce a été prononcé pour faute grave à votre encontre. Considérons que chaque soir, l'époux empêche son épouse légitime de dormir en lisant avec la complicité de sa lampe de chevet ostensiblement son livre de chevet. Attendu que monsieur Stanislas Ribel regarde davantage ce livre que son épouse, qui souffre, a établi le psychologue, d'un déficit de considération portant atteinte gravement à son image de soi et à sa féminitude. Considérant que certains soirs, monsieur Stanislas Ribel s'endort avec le livre sur son ventre et que dans la nuit, le ronflement intempestif, qui est déjà en soi une cause de divorce, le fait chuter intempestivement sur Cunégondine, qui, tout attendrie, s'était elle rapprochée de son mari dans l'espoir d'une caresse et se retrouve ainsi assommée. Attendu qu'un livre de chevet en particulier, L'homme sans qualité, déjà c'est une raison de divorce, en un seul tome, a ainsi provoqué un saignement de nez à Cunégondine, suivi d'une ITT supérieure à 8 jours. Considérant enfin que M. Stanislas Ribel n'a jamais accepté de faire cesser sa liaison adultérine avec la poésie, et a même multiplié les partenaires, parfois en amenant dans le lit conjugal de la poésie différente tous les soirs. Considérant et attendu tout ça, le jugement de divorce est prononcé et s'exécute immédiatement. L'ex-conjoint est condamné à verser à son ex-conjointe une pension alimentaire qu'il ne pourra pas payer en bon d'achat Fnac ou Gibert. Maître Trissotin, notaire.
Vous voyez, finalement, la poésie, c'est dangereux. Hein.
Non, c'est la exigeant. Poésie, non. Mais évidemment, si vous lisez L'homme sans qualité, si vous êtes un garçon, que vous lisez L'homme sans qualité, à côté de votre femme, alors que vous êtes en instance de divorce, c'est du suicide, c'est pas possible.
Et que votre femme pense que L'homme sans qualité est un livre de poésie,
oui,
c'est une cause supplémentaire de divorce. Oui, c'est qu'elle va très mal, quoi.
Bon, alors, je m'interroge sur la formation de Sophie, parce qu'elle a tout à fait le vocabulaire de l'avocate commise d'office pour les divorces.
Enfin, j'ai fini quand même par notaire, alors que j'avais commencé par avocat. Mais...
Oui, c'est pas grave, ça s'est à peine senti. C'était très discret.
Un peu juge au passage, puisqu'elle rend le jugement aussi.
Oui, tout à fait. Oui, elle est considérée
d'habitude. C'est très polyvalente, cette Sophie.
Non, mais elle fait des petits CDD un peu partout, donc...
Dicono che le corde vocali sono due. Dicono tante cose. Dicono anche le cose che non sono vere. Dicono perché non sanno che so di sapere.
Peccato che le corde vocali avevano subito un intervento chirurgico. Avevano delle difficoltà nell'esprimere un concetto, un pensiero poco umano, un pensiero poco sì, un pensiero poco sì ortodosso, un pensiero poco umano. Perché lui si era operato le corde vocali erano due, e si era operato alle corde vocali. Questo disperato ha bisogno di scrivere, questo disperato ha bisogno di avere esternare, questo disperato ha bisogno di avere per forza scrivere, non avere tutto dentro.
Dio vocali par musica nuda. Dans la maison poésie, je demande à nouveau Patrice Delbourg. Patrice est notre fil rouge dans ce dimanche papou, jouons avec la poésie. Patrice Delbourg est écrivain, journaliste, poète, et il a ses humeurs sur le sujet « Lire, solitude en terrasse, solitude au pluriel », paru ces jours-ci, je cite Patrice, « 227 portraits littéraires pour un panorama affectueux et oblique de la littérature ». Alors, Patrice Delbourg, la poésie.
Comment va la poésie, madame, monsieur ? Coup-ci, coup-ça, vieille rengaine. On la malmène, on la tarabuste, on la prive de subsides. On menace ses festivals, ses lieux de diffusion deviennent peau de chagrin. On cherche vainement aujourd'hui des chroniques de poésie dans nos quotidiens, nos magazines. Quand on regarde nos voisins qui bichonnent, qui chouchoutent, qui cajolent leurs chers troubadours, c'est un fait que la France ne materne guère ses poètes. Mais bon, voilà un serpent de mer qui revient régulièrement sur le devant de la scène. C'est injuste, c'est navrant, c'est comme ça. Pourtant, elle continue à sourire jaune, à rire tout rouge, la poésie, madame, monsieur. Elle résiste, elle riposte et se venge par la durée. Le printemps des poètes, toujours menacé, fête actuellement son 18e anniversaire sous la bannière du grand 20e. Non, pas l'arrondissement, mais le siècle que nous avons dans le rétroviseur. On y célèbre, par exemple, nos 4 mousquetaires du lyrisme contemporain, ceux sans qui rien n'aurait été possible. J'ai nommé Apollinaire,
ouais.
Desnos, Mac Jacob et Sandrard, Blaise de son prénom. Mais aussi des voix plus discrètes, au timbre rare, tel Reverdy, Supervielle, Ségalène ou Jean Follin. Ah, Follin! J'ai toujours eu un petit faible pour l'auteur de Canisy, de Chef-lieu ou d'Usage du temps. Oui, non seulement la poésie reste toujours contagieuse, madame, monsieur, mais elle devient épidermique, quelque chose de nu, d'irréfutable, non plus un gibier de contrebande que l'on désigne avec des chuchotements de maquisard, mais un mouvement salutaire de grande évidence. Notre 21e millésime sera poétique ou ne sera pas. On peut rêver, non ? Elle survit, la poésie, chichement peut-être. Le nombre des revues s'amaigrit, quelques libraires se font passeurs, des poignées de lecteurs irréductibles s'apparentent à des partisans en maraude. La poésie, on ne sait pas toujours ce que c'est, mais on la reconnaît tout de suite quand on la rencontre, disait Jean Lancelme, un des rares poètes d'humour que nos climats tempérés aient connus à la fin du siècle dernier, avec Jean Tardieu ou André Frédéric, qui firent les petits bonheurs de France Culture. Oui, l'insubmersible poésie regimbe, ferraille. Soudain, elle tend lestement un point fermé dans les marges du temps, réfractaire et fraternel. Elle guette, l'œil collé à la serrure de son époque. Elle s'allume par surprise, comme un brasero à la croisée des discours de langue de bois, des mensonges institutionnalisés. Merveilleuse erreur du langage qui s'oppose au pouvoir en place. Elle est indispensable à cet homme approximatif, cher à Tristan Tzara, ce passant stupéfait, notre cousin, notre frère. Aux environs de l'ère giscardienne, nous avions laissé la poésie dans l'ornière formaliste, minimale, lambeau de textualité savante, racornie, en lévitation dans l'air raréfié de la page blanche. Les temps ont changé. La poésie éprouvette a redonné place à la poésie baïonnette. Du plus secret, Henri Michaud, au plus populaire, Jacques Prévert, la poésie reste le dernier panache d'une création vacillante contre la milice casquée des conformismes saisonniers, des impostures politiques qui brisent, qui castrent, qui embastillent. Elle s'écrit de la main gauche, la poésie, celle la plus proche du cœur. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu de sérieuses réticences vis-à-vis des contorsions répétées de certains bardes anémiques, apôtres du vers constipé.
On peut pas tout aimer, hein.
Mon affection va vers les 100 grades, ceux qui écrivent à niveau d'homme, dans la moelle des villes, les désemparés. Titre d'un livre que j'avais consacré jadis à cette académie pas de chance, où fourmillent les soleils noirs de la désespérance. Pour le simple plaisir, citons quelques-uns de ces parias célestes, ces maudits sans rémission. Jean-Philippe Salabreuil, Roger Kowalski, Armand Robin, Francis Giauc, Alain Borne ou Stanislas Rodansky. Ici, le vers est libre, dégagé, bien dégagé derrière les oreilles. La strophe ne rime plus guère, elle se moque de l'hémistiche, boule de mercure au creux de la paume. Tout ostracisme formel se dissipe. La poésie dit l'inquiétude, la solitude, l'absurde et l'angoisse du piéton somnambule, en proie à la cité cannibale qui l'écrase face au quotidien difficile, contradictoire. Même si, comme le disait Georges Perros, encore un grand oublié, un breton de Douarnenez, la chanson est à l'ordre du jour, tandis que la poésie reste au service de la nuit. Elle continue à nous engager, à regarder le monde d'une autre façon. Elle marche avec ce regard taquin, prégnant, gourmand, luxueusement inutile. Certes, il plane sur l'activité poétique encore et toujours un malentendu permanent. À quoi tout cela rime, quelle folle lubie, que cette graphie fragmentée, simultanée, qui semble ne s'adresser à personne. Aujourd'hui, plus que jamais, son désintéressement dérange. N'y voyez pourtant ni progrès de la langue, ni transmission idéologique. Non, monsieur, non, madame. Mais plus d'une fois, elle m'a sauvé la mise, la poésie. Dans des séquences de marasme dépressionnaire, et le Vidal seul sait si elles furent nombreuses. La poésie est toujours là, complice et confidente. Elle fait passer de l'air frais entre les heures tourmentées de la journée. C'est un dictam, c'est une boussole, c'est un thermostat. Ma poésie n'est ni minimale, ni minérale. Elle est inquiète et citadine, trouée comme une cire à miel, propageant des télégrammes de malaise et de précarité. C'est souvent une manière saccadée, torturante, mal fichue, inconfortable, un climat anxieux des alentours moches. C'est ainsi, c'est comme ça. Du plus loin qu'il me souvienne, la poésie m'a toujours semblé une grande fatigue surmontée. Oui, madame, oui, monsieur, écrire comme on respire pour s'inscrire dans son temps, sa génération, se mettre au clair. Plus près de nous, citons encore des voix riveraines, affranchies, Yves Martin, Daniel Bigat, Jean-Pierre Verhaeghen, André Laude, Franck Venaille. Oui, décidément, c'est étrange comme j'aime égrener les noms des poètes, comme ceux d'athlètes champions de course à pied ou ceux de crus de Bourgogne. Bien modeste plaisir de la langue qui joue une dernière partition avec les mots de la tribu.
Et comme chanson, qu'est-ce que vous voulez, Patrice Delbourg ?
Comme chanson maintenant ?
Ouais.
Après tout ça ?
Ouais.
Oh là là ! Vous savez
après que... la poésie douce, amère, mais parfois joyeuse.
Moi j'aime Francis Lemar, j'aime Charles Trenet, j'aime Alain Souchon, j'aime Alain Bachung, j'aime... Oh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chanson ? Nougaro, ça serait formidable.
Allez, Nougaro, on y va.
J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige, celui que tu m'avais offert. Tu n'imagines pas, Nadège, sur le coup ce que j'ai souffert. J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige, en slalomant du haut d'un pic. Et maintenant, sacrilège, je t'écris à la pointe bic. Ce n'est pas le premier que je paume, mais celui-là j'y tenais tant. Je le réchauffais dans mes paumes, le sussautais entre mes dents. Et là-dessus, il n'a plus de papier à lettres, mais il y a quand même une feuille de papier à musique.
Eh oui, Claude Nougaro, j'ai perdu le Mont Blanc dans la neige. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête des papous, tout poétique. À suivre jusqu'à 13h59, la chasse aux inédits et le premier épisode d'une série chronique de Jacques Jouet. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? Réponse, chut. Les papous au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du jour. La chasse à l'inédit est ouverte. Les éditeurs en sont friands. Quant aux lecteurs, ils se précipitent sur ces bouts de littérature retrouvée, fragments d'œuvres de jeunesse, poèmes d'enfance, souvenirs familiaux, tout ce qui permet d'aborder un auteur par sa face cachée est bienvenu. À défaut de trouver des inédits, on peut s'amuser à les fabriquer. C'est un jeu pour les papous. Alors Clémentine Mélois, vous avez chaussé vos lunettes d'experte parce que Clémentine, vous n'êtes pas une chercheuse d'inédits, vous êtes une trouveuse.
Absolument. C'est ma sœur qui a trouvé une enveloppe.
Ah bon,
elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Barbara. On me l'a passée. C'est vraiment incroyable.
Ah bon ?
Ce qu'elle a trouvé. Oui, oui. Ma sœur qui habite à Charleville-Mézières.
Oui.
Et a récemment entrepris des travaux de rénovation dans sa maison.
Oui.
Et derrière une cloison, elle a trouvé cette enveloppe qui contenait...
Une vieille enveloppe.
Voilà.
Très jolie, hein, je la regarde.
Voilà,
oui.
Qui contenait 9 documents ayant, semble-t-il, appartenu à Arthur Rimbaud.
Ah bon ? Mais votre sœur, c'est celle qui est marionnettiste.
Oui, absolument.
Oui, d'accord.
Et à Charleville-Mézières ?
Oui. À Charleville-Mézières.
Ah, ça tombe bien, alors.
Oui, mais on la connaît un petit peu quand même.
Oui, à l'école de marionnettes de Charleville.
Peut-être c'est elle qu'on aurait dû faire venir aujourd'hui, alors, pour nous présenter le dossier.
Je ne l'ai pas trouvé directement, ces inédits, mais elle me les a confiés, et puis je les ai étudiés.
Oui. D'ailleurs,
alors, la révélation de l'existence de ces documents va faire grand bruit. Elle a déjà été contactée par la British Library et le musée Rimbaud à Charleville.
Oui.
Voilà l'enveloppe. Donc elle est de taille moyenne, en papier jauni. Alors je vais faire de mon mieux pour vous décrire les documents, même si c'est pas très radiophonique. Le premier de ces documents, c'est un manuscrit.
Oui, montrez-le bien au micro.
Voilà,
oui,
au micro, je vous montre.
Il y a écrit la Bohème.
Sur papier défraîchi, de la main même de Rimbaud. Alors son écriture est très reconnaissable. Je vous fais passer le document.
Oui, on va voir. C'est une écriture très fleurie, avec des grandes majuscules, des jolis pleins, des déliés.
Alors,
aussi,
il n'est pas daté.
Souvent,
mais ça...
pour s'amuser, les hommes d'équipage, oui, je reconnais la bohème très bien, là.
Le document n'est pas daté, mais ça ressemble à une variation sur le thème de Ma Bohème. Il appartiendrait donc à la fameuse série des poèmes du recueil de Douai, que Rimbaud a composé en septembre-octobre 1870. Alors, pour être sûr, il faudrait l'avis d'un spécialiste que je ne suis pas, donc je me contente d'avancer des suppositions.
Oui.
Voici le poème. La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Oui,
mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grainé dans ma course des rimes. Montmartre, en ce temps-là, accrochait follement ses lilas jusque sous nos fenêtres. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Merci. Moi qui criais famine et toi qui posais sous la nue. C'est très...
C'est beau, le oh là là, il a raison.
Non,
Hervé,
c'est le oh là là,
comment vous diriez le oh là là?
Ah, je dirais exactement comme ça.
Oh là là,
oh là, là.
Que d'amour splendide.
C'est un texte du domaine public, déjà. Tous les amoureux de la maison de la poésie le connaissent.
Absolument, ah, mais c'est vrai.
Ouais, elle nous recycle d'anciens inédits, là.
Alors, le deuxième document, c'est une page d'un cahier d'écolier du jeune Rimbaud, daté du... Mardi 11 avril 1865. Alors, je vous le fais passer.
Bien sûr.
Alors, les bords sont irréguliers parce que la page a été déchirée d'un cahier, mais l'état de conservation est malgré tout exceptionnel.
Petite écriture enfantine, voilà. Je dirais 10-11 ans. Hein.
Je pense, c'était à peu près ça en 65, il devait avoir 11 ans.
Oui, 10 ans. Oui, Lucas.
Alors, l'écriture à l'encre violette est très appliquée et le devoir comporte quelques corrections de l'instituteur à l'encre rouge. Alors, je vous la lis. Mardi 11 avril 1865. Leçon de morale. Je ne ferai point le commerce d'armes à feu. Suite conjugaison. Le verbe s'accorde avec le sujet. Exemple. L'éternité, mère allée avec le soleil, est retrouvée. Elle est retrouvée quoi ? L'éternité, c'est la mère allée avec le soleil. Et enfin dictée.
Oui, il n'a pas compris, Hervé. Il a une petite difficulté en grammaire.
Comment ça ?
Il faut dire.
Elle retrouvait quoi ? L'éternité, Hervé.
Ah, l'éternité.
Voilà. Alors, dictée, Hervé.
Oui.
Comme je descendais des fleuves impassibles,
ah, yes.
Je ne me sentis plus guidée par les haleurs. Je ne me sentis plus guidée par les haleurs.
Ça faut aider un peu.
Alors, il y a une faute à je descendais sur la copie que Rimbaud a orthographiée AIT.
Ah oui, effectivement.
Alors,
oui.
La faute est soulignée 3 fois à l'encre rouge et on peut lire au-dessus une remarque narquoise de l'instituteur. Je serait-il un autre ?
Voilà. Ah oui.
Ah.
L'instituteur était cassant.
Ils embarrent.
Mmh.
Oui. Exactement.
Alors, la page était accompagnée d'un bon point de petit format sur carton rose. Le sanglier ardennais.
Ah oui, oui, très, très
allez,
joli
ce
ça.
Roger
regardez, Patrice
ah, oui. Delvaux.
C'est très
oui.
joli.
Oui,
vous en avez
oui,
eu des comme
général,
ça quand vous étiez
oui.
petit.
Voilà, le sanglier ardennais.
Alors, celle qui était en 62 au Stade de France, au Parc des Princes, s'appelait Dudule. C'était le fétiche de l'équipe de Sedan.
Le sanglier,
oh, le sanglier, bien sûr.
Oui, c'était une femelle, alors.
1862.
1862.
Le match contre Nîmes.
1862.
1962.
Pas désagréable, pas 1862.
À Colombes.
Oui. Donc c'est probablement le bon point d'Arthur Rimbaud.
Non mais Sedan, c'est une des équipes préférées de Patrice oui. Delbourg.
Alors détruit,
ça lui
dit-elle.
Va droit au tort.
Je poursuis. Hein. Ce sont des trois cartes postales sublimes, forcément sublimes. Donc je fais passer la première.
Mm-hmm.
Ce sont trois cartes postales attachées ensemble par un ruban d'une couleur un peu passée, jaunasse.
Jonas
Jonas, comme Michel Jonas.
Oui, j'allais dire, les wagonnets.
Voilà.
Là, vous parlez de Jonas et Patrice Delbourg se réveille instantanément.
Jonas, immédiatement, les wagonnets.
Donc, ils sont d'une couleur passée. Donc, elles sont signées des initiales PV, dont on peut supposer qu'il s'agit de Paul Verlaine, et sont toutes les trois adressées à Arthur Rimbaud, La Roche, Ardennes, France. Chère grande âme, merci pour ta bonne lettre. Je t'écris de la closerie des Lilas, c'est du dernier chic. Ils font un bœuf mode épatant. Il fait bon et l'on est tout tien. PV. Mmh. Cher Rimbe, bien reçu ton gentil courrier. Je viens de poser mes valises à Namur. Le soleil est accablant et il gèle le matin. La cuisine roborative allège l'âme et le portefeuille. Et te la resserre de rechef. Ton bien cordial, PV. Et enfin, mon cher ami, merci pour ta missive reçue tantôt. Je croupis dans cette chambre où l'on manque de tout. La nourriture angliche me désole le palais. Tant de chiens, ton vieux PV.
Non mais ça vaut le coup de s'écrire quand même.
Oui, alors c'est un instantané comme ça de la vie.
Un moment de vie,
alors,
oui.
Très jolie carte postale. C'est un,
avec un oiseau
la
mort.
La carte postale postée de Londres, c'est un rouge-gorge mort.
Oui.
C'est une carte de Noël.
Ah bon, pour Noël?
C'est marqué en dessous en lettres « May yours be a joyful Christmas » avec un rouge-gorge mort, c'est particulier.
Oui.
C'est le choix de... Paul Verlaine ne devait pas avoir le moral à l'époque, je pense.
Ou alors il n'avait pas d'autres cartes postales.
Il
n'a
jamais eu,
postage.
Il était, non, savant, il était simplement bourré.
Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il l'appelle « mon cher Rimbe ».
Ah bah oui, la Rimbe. Il l'appelait la Rimbe.
La Rimbe.
Ah oui, toujours.
Oui, oui.
C'est une marque d'affection chez ce...
Il
se tutoyait, bah oui.
Non, mais ça authentifie les inédits.
La Delbe,
bah oui.
La Delbourg,
pas de
Delbourg. Oui, c'est juste vous, ça.
Et toi, JB, pareil.
La peau.
Alors,
il y en a encore une cinquantaine.
Alors, il y en a, voilà, c'est bientôt fini. Hein, tout, voilà. Le dernier document, c'est une lettre de la main de Vitaly Cuif, la mère d'Arthur Rimbaud. C'est une lettre de remontrance, mais non dénuée de tendresse.
Voilà. C'est toujours ce qu'on dit, oui. C'est l'amour vache, mais honnête.
Non dénué de tendresse.
Non dénué de tendresse.
Oui.
Alors, La Roche, 8 décembre 1870. Mon cher enfant, j'ignore dans quelle fâcheuse situation vous êtes encore allé vous mettre. Il m'a fallu à nouveau repriser vos poches crevées, ainsi que votre unique culotte qui avait un large trou. Ne sachant rien de ce qu'il faut savoir, vous semblez résolu à ne faire rien de ce qu'il faut faire. Vous aurez bientôt 17 ans, mon enfant, et on se doit d'être sérieux quand on a 17 ans. Votre mère.
C'est voilà. Pas si méchant, hein.
C'est gentil.
Oui, oui.
C'était une femme de caractère.
Moi, il y a une question qui me taraude tout d'un
oui.
coup.
Ah, oui.
On ne parle jamais du père de Rimbaud.
Il avait déserté.
Il avait déserté quoi, l'armée?
Alors non, justement, pas l'armée, il avait déserté la famille.
Oui,
mais enfin, il existe quand même.
Le commandant?
Peut-être.
Il supportait pas Vitaly.
Il faudrait que le tellier se penche sur le problème.
C'était Vitaly le problème?
Oui, c'est Vitaly. La vie de couple, lui, était devenue insupportable.
Oh, bah ça.
Ouais,
y a rien. On peut le comprendre. La moitié de la littérature est faite de ce genre de remarques.
Vous êtes tellement pessimiste sur les couples, vous, Patrice Delbourg, hein? Vous voyez, vous restez quoi?
Oui, oui vous, quoi.
Qu'on lui parle de
vous jetez votre cri de désespoir oui. Et après
sans
plus
l'air,
rien.
Sans l'air d'y
bon,
penser.
Je peux vous demander si vous avez un point de vue sur les découvertes de Clémentine Mélois et sur Rimbaud, quoi.
Ah, j'ai un avis très personnel.
Oui, pourquoi?
Vraiment, même très quotidien, même très ancré dans mon cadastre quotidien sur les inédits d'Arthur. Puisque. Je connais bien sa sœur.
Oh, et non, mais vous n'avez pas fait couple avec...
Non,
non.
Pas nullement. Elle...
Celle qui habite Charleville-Mézières.
Absolument, mais ah, oui. Qui parfois fait des intérims à Paris et qui...
Ah bon dans... Oui. Dans les marionnettes, toujours?
Non, mais c'est une façon
de jouer des effigies en maniant les manettes des percolateurs. Donc il travaille dans un bar.
Voilà, et vous avez eu la chance de voir certains inédits avant Clémentine ?
Elle m'en a parlé, quelquefois.
Il faut que ce soit comme ça que je l'apprenne. C'est incroyable.
Oui, oui, oui.
Il faut être au papou. Faut
oui, mais parce que les marionnettes, ça ne nourrit pas sa femme. Donc, pendant une période hivernale, elle vient dans un bar à Paris. Puis pendant l'été, elle fait ses effigies avec de la ficelle et du papier. Comme je descendais le Sébastopol impassible, creusant le pavé humide avec mes brodequins éculés, je ne me sentis plus guidé par les chaleurs. Dame, un petit vent frisquet venait d'Étienne Marcel. Je boutonnais les brandebourgs de mon Duffelcoat et pénétrais dans un estaminet à l'enseigne du petit Carolo Massérien, qui, sans paraître huppé et ramenard, est le nom de l'habitant de Charleville-Mézières. Pas de quoi d'ailleurs se montrer du col, c'était une question rouge au jeu des 1000 francs hier de Madame Épère de Loche. Dans la sûre du comptoir, j'aime à prendre là des nouvelles de ma bonne équipe de Sedan, hélas descendue en national, qui avec le poète Arthur Rimbaud et le pire taux de chômage dans le pays sont les fleurons des Ardennes françaises. Barbara Mélois, marionnettiste de son état, officie en intérim au percolateur et me confie après une brève sus cassis qu'elle vient de remettre à sa sœur cadette de 13 ans, Clémentine, une liasse inédite de ce même Arthur Rimbaud pour une émission culturelle à la radiodiffusion française. J'avoue que cela ne m'émeut guère, car je préfère la poésie de Max Elskamp et plus encore celle d'Armand Robin. C'est comme ça, on ne se refait pas. Armand Robin, que Jean-Bernard Pouy connaît bien, puisque c'est un riverain de sa villégiature estivale.
Voilà. Rostronin.
Absolument. Ma vie sans moi, magnifique poète. Barbara Mélois travaille au bar du petit Carolo Massérien, l'hiver, les mois d'hiver, et ne rejoint les bords de Meuse qu'à la belle saison, pour confectionner ses poupées avec de la ficelle et du papier. Donc, poupées, disons ses effigies, ses silhouettes, parfois hiératiques. Elle me dit qu'elle a ainsi trouvé, lors de travaux de rénovation dans sa maison de Charleville-Mézières, une nouvelle version de la bohème du dénommé Rimbaud. « Je ne moufte guère », demande un guignolet Kirsch, vu que je préfère la poésie de Gerasim Louka et plus encore celle de Jean-Philippe Salabreuil. C'est comme ça, on ne se refait pas. Barbara Mélois, qui est bonne fille, ne se décourage pas et me dit qu'elle a également confié à sa sœur Clémentine le manuscrit original du bateau ivre, bourré de fautes d'orthographe. Je ne tique guère et commande un picombière. Le bar de voyous aux semelles de vent n'a jamais été ma tasse de Lipton. Et je préfère de loin la poésie d'André Drichaud et plus encore celle de Jean-Pierre Dupré. Loin de se démonter, Barbara m'offre une tournée de klaxons bien chaud et m'annonce triomphante qu'elle détient aussi une lettre de la main de Vitalie Cruyff, la mère d'Arthur Rimbaud. La mère de Juan, dis-je, méfiant, elle ne semble pas comprendre. Je déteste le jeu de l'Ajax d'Amsterdam et je préfère de loin celui de Manchester United et du Bayern de Munich. Et puis c'est tout. Barbara Mélois me regarda bizarrement,
oui, ça, on a compris,
me resservit un dernier ballon de Noilly-les-Prat et me dit gentiment que l'établissement n'allait pas tarder à fermer.
Mais c'est un témoignage très beau sur votre sœur, surtout.
Elle m'a rien raconté.
Non mais on conseille à Barbara Mélois, votre sœur, donc de podcaster cette émission où on parle tellement d'elle. Et pour les jours de déprime, ça lui fera du bien.
Absolument, je lui téléphone en sortant.
Oui,
oui. S'il vous plaît, vous avez raison. Tous ces vrais faux inédits de Rimbaud sont sur franceculture.fr, à la page des Papous du jour, écrits et dessinés de la main de Clémentine Mélois. C'est une artiste, Clémentine.
Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de Fagram ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vide de trois verres en parlant de peinture, d'amour, de
de chansonnettes et de littérature. Il y a là, bien sûr, des poètes, le prince tirant sur sa bouffarde, l'ami Georges Brassens. Il y a Presles aussi et Léo l'anarchiste. Je revise avec eux une célèbre affiche. Trainée vient nous chanter une folle complainte. Cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon, qui rôde près du bar et des mauvais garçons. L'ami René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche. Du vin et des femmes, et surtout des copains qui font la vie plus belle ou des espoirs plus loin. Il y a Boris Vian, Maupassant et Bruant, écoutant les histoires d'un Coluche hilarant. Je m'assois avec eux pour quelques libations, entouré de mes proches, les Reiser et les tontons. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux. Je l'avoue, désolé, manque de femme un peu. Mais les amis, les potes qui le hantent toujours savent aussi bien qu'elle ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants dans ma mémoire au moins que la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains.
Renaud, mon bistrot préféré. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ? Une nouvelle série proposée par Jacques Jouet. Léonard de Vinci a tout inventé, ou presque. Il écrivait même des poèmes à César, eh oui. Et dans ses carnets, des pensées sur peinture et poésie. Par exemple, la peinture est une poésie muette, la poésie est une peinture aveugle, à méditer. Léonard de Vinci a tout inventé, ou presque, et c'est dans l'espace de ce presque que Jacques Jouet s'est glissé pour imaginer d'autres inventions au génial Léonard. Et c'est la maman de Léonard de Vinci qui lui pose la question « Qu'est-ce que tu as encore inventé, Léonard ?» Les mamans s'agacent parfois d'un rien. Une nouvelle série de Jacques Jouet pour les Papous. Premier épisode, première invention, Jacques.
Les bretelles. Qu'est-ce que t'as encore inventé, disait Madame de Vinci à son fils Léonard, qui remplissait fébrilement son carnet de croquis. Je ne comprends rien à tes gribouillages. Tu ferais mieux de descendre la poubelle puisque ton père est malade et que tu n'as pas encore inventé le vide ordure ni le zéro déchet. Attends, maman, je crois bien que je suis en train de résoudre un problème civilisationnel de façon sensationnelle. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ce soit toujours moi de descendre cette fichue poubelle, marmonna Madame de Vinci dans sa barbe, qu'elle portait seulement à l'intérieur depuis que le petit Léonard avait inventé le rasoir jetable. Quand elle fut remontée, elle était encore plus remontée contre son inventeur de fils. Elle le saisit de force par le bras et l'emmena près de la bassine et du broc afin qu'il se lavât les mains en vue du dîner. Le petit Léonard n'avait plus son crayon ni son papier, ce qui ne l'empêchait pas de continuer à dessiner dans sa petite tête. « Tu sais, maman, dit-il, j'ai compris pourquoi papa est malade. »« Ah ben, tu n'es pas le seul. Moi aussi, je l'ai compris, et c'est pas d'hier. C'est les poils qu'il a dans les deux mains, un à gauche, un à droite, qui lui font mal au point de l'obliger à garder le lit. »« Non, maman, ce n'est pas ça. Il y a surtout qu'il a maigri de plusieurs kilos depuis le début de l'été et qu'il perd régulièrement ses hauts de chausses qui, du coup, ressemblent plutôt à des bas de chausses. Il ne sait trop comment les faire tenir. » Est-ce qu'il n'y a pas un objet que tu lui as bien gentiment inventé il y a de ça 2 ans déjà et qu'on appelle une ceinture ? Je ne veux pas qu'on me raconte d'histoire, je suis trop vieille pour ça. Tu n'es pas vieille maman, tu es la plus aimable maman que je connaisse, ma préférée, tu es immarcessible. Oh, merci mon Léo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sens que c'est un compliment. Et ça fait toujours plaisir. Cela dit, j'ai dit ce que j'ai dit. Moi aussi j'ai dit ce que j'ai dit, mais je n'ai pas fini. Tu n'es pas sans savoir, maman, que mon papa, qui a la mauvaise habitude de faire la sieste dans l'herbe du jardin de l'évêché, a attrapé des aoutas. Des aoutas au mois de juillet, non, mais à d'autres. Des aoutas, maman. Et depuis qu'il a des aoutas, et qu'il ne parvient pas à s'en défaire, il ne peut plus mettre de ceinture. Celle-ci exacerbant ses démangeaisons de façon terrible. Du coup, il repère ses pantalons comme si je n'avais pas eu inventé la ceinture. Mais tu sais, maman, je te l'ai déjà expliqué maintes fois, qu'une bonne invention trouve ses conditions favorables dans une observation permanente, précise et sans faille de la réalité. Eh bien, ce matin, en observant tous les boutons rouges qui forment une ligne de pointillés au milieu du corps de papa, je me suis dit que si l'on parvenait à accrocher une ficelle à l'une ou l'autre de ces excroissances, je te signale que parfois ce genre de boutons, on les appelle des clous, un bouton devant, un bouton derrière, et que la ficelle remonte par-dessus les épaules, là où se trouvent les solides osselets qu'on appelle clavicules, on aurait un soutien tout à fait sérieux du fameux pantalon qui ne rêve que d'obéir à la loi de la gravitation universelle dont mon copain de maternelle, un dénommé Newton, a établi fermement l'existence. Est-ce que tu me suis, maman, ou est-ce que ma phrase est trop longue ? Madame de Vinci avait piqué du nez dans son assiette, mais ne voulut pas le reconnaître. Elle dit « oui, oui » en réprimant un bâillement qui venait de loin. « Mais !» dit Léonard, car il y a un « mais », ça ne marche pas, maman, car les boutons d'Aouta, non contents de ne pas être assez solides, sont également douloureux, et exercer sur eux une force ascendante serait du dernier désagrément pour papa. Alors, tu sais que la règle d'or est qu'on n'abandonne jamais un projet. Je me suis dit que j'allais fabriquer des boutons qui ne soient pas des boutons naturels, naturellement, mais des boutons en bois que je vais coudre sur les chausses de sorte qu'ils puissent retenir la ficelle par un nœud. Et je vais appeler ça des bretelles, maman. Je dis bien des bretelles au pluriel, parce qu'il en faut une paire. Une bretelle à gauche, une bretelle à droite, et le tour est joué. Papa ne perdra plus jamais ses pantalons, d'autant plus que lorsqu'il sera guéri de ses aoutas, il pourra revenir à ses premières amours et par conséquent recourir à ceinture et bretelles. Hélas, oui, hélas, hélas, dit Madame de Vinci, comme si elle voulait refroidir l'enthousiasme du petit Léonard. Pourquoi dis-tu hélas, trois fois hélas, ma petite mère, origine bénie de mes jours ? Parce que, mon fils, je pense à ce jour déjà lointain où nous t'avons conçu, ton père et moi. C'était un jour favorable. En quoi était-ce un jour si favorable, maman ? Ni ceinture, ni bretelles, mon fils. Ce jour-là, il avait tombé volontairement son haut de chausse.
Des papous dans la tête. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Emmanuel Couturier. Une émission à podcaster sur franceculture.fr pendant un an. À réécouter 1000 jours à la page des papous. Pour les remarques, commentaires, questions, directions, la page Facebook des papous. Rejoignez-nous entre amis pour échanger vos impressions. On se retrouve dimanche à 12h50 pour de nouvelles aventures papouesques. Au revoir, passez un bel après-midi bien au chaud et en bonne compagnie sur France Culture.
Quoi, quoi ?